Bonjour à tous. Sur France Culture, il est tout juste midi. Dans quelques instants, ce sera la première partie de la Grande Table, mais tout de suite les titres du journal de 12h30 avec Ludovic Piétenu. Bonjour Ludovic.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. C'est un congrès qualifié d'historique et pour cause, il n'avait pas été convoqué depuis 1980. En Corée du Nord, Kim Jong-un, au pouvoir depuis 5 ans, va consacrer son règne absolu en s'inspirant, comme il le fait, de son grand-père qui avait réuni le dernier congrès pour introniser son fils. Lui, Kim Jong-un, n'a que 33 ans, il n'était même pas né à cette époque. Nous appellerons notre correspondant Frédéric Ojardia s'installer dans le sud de la Corée. En Europe, les résultats des élections régionales en Grande-Bretagne nous parviennent petit à petit. Élections surprenantes en Écosse, nous dira Bruno Caden, où les indépendantistes remportent une troisième victoire d'affilée et où les travaillistes chutent au profit des conservateurs. Nous analyserons également les résultats au Pays de Galles. Nous suivrons le discours du pape François qui commence dans quelques minutes. Nous irons donc au Vatican où l'homme se voit remettre de la main des Européens le prix Charlemagne pour sa contribution à l'unification de l'Europe, des Européens qui s'achètent à peu de frais une bonne conscience sur le dos du pape dans le dossier de la crise des migrants, nous dira un vaticaniste, vous l'entendrez à midi et demi, ainsi que les commentaires de notre correspondante romaine Mathilde Imberti. Nous parlerons enfin des tensions chaque jour un peu plus vives entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza quand Israéliens et Palestiniens paraissent irréconciliables. Nos invités tenteront de nous prouver le contraire. Inès Veil-Rochant et Kenza Aloui organisent à Paris le premier festival artistique israélo-palestinien. Ça s'appelle Pèlerinage en décalage, Caroline, et c'est à suivre dans une demi-heure.
Et pour commencer, nous allons parler de photographie, Ludovic, en compagnie d'un auteur de chez Magnum Photo qui nous emmène en voyage, en l'occurrence en Chine, pays qu'il a sillonné pendant 30 ans et dont il nous offre un document photographique exceptionnel sous la double forme d'une exposition et d'un livre qu'il a accepté de feuilleter en direct avec nous. J'accueille Patrick Zachmann. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à la Grande Table.
Les Chinois, contrairement à d'autres pays, quand on les photographie, ils ne s'inquiètent pas, ils ne se préoccupent pas. Ça reflète peut-être une certaine arrogance. Ils continuent leur chemin, ils continuent ce qu'ils font. Et donc on peut se promener, il ne faut jamais insister. Une bonne photo, ce n'est pas en se mettant sous la tête de quelqu'un, mais c'est en passant comme ça. C'est vrai que c'est un avantage.
C'était le photographe Marc Riboud que vous avez bien connu, Patrick Zachmann. On l'entendait là dans une archive INA de 1996. Marc Riboud a beaucoup photographié la Chine. Vous aussi, donc, vous nous apportez, je le disais, un document exceptionnel sous la forme d'une exposition qui se tient à Paris à la Maison Européenne de la Photographie en ce moment même et sous la forme également d'un livre, d'un très très beau livre, So Long China, édité chez Xavier Barral. Vous êtes d'accord avec ce que disait Marc Riboud? Les Chinois, ils se laissent facilement prendre en photo?
Dans la rue, oui. Dans la rue, c'est vrai, ils sont comme invisibles. Enfin, ou nous, en tout cas, on paraît comme invisibles. On peut travailler sans problème, sans aucune, en général, aucune agressivité. Ils nous voient pas. On a l'impression qu'ils nous voient pas. Mais ça, c'est dans la rue. Et chez les Chinois, ce qui est intéressant, c'est de faire une distinction entre ce qui est public et ce qui est privé, la façade et derrière la façade. Prendre des photos, en revanche, de leur intimité, là, c'est une autre histoire.
Ça a évolué en 30 ans, ça ?
Ça a évolué, oui. Enfin, surtout, en fait, en diaspora. Alors, dans la diaspora, ça a évolué parce qu'il y a des nouvelles générations qui grandissent avec des Européens, des Occidentaux. Et forcément, ça permet une ouverture. Mais en Chine, ça a évolué, mais je dirais presque dans le sens inverse.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que sous le régime communiste d'avant, très fermé, après Mao Tse-tung, paradoxalement, il était très facile de rentrer dans des endroits où maintenant c'est très difficile. Par exemple, ça faisait partie de la propagande officielle que d'aller visiter des usines. Et moi, j'ai eu aucun mal, au contraire, à photographier des usines dans les années 80. Aujourd'hui, c'est vraiment très difficile de rentrer dans des usines parce que il y a le travail des enfants qu'il faut pas montrer, parce qu'il y a l'exploitation, parce que ils ont peur de voilà, ils ont peur maintenant des journalistes, des photographes, et puis les gens. Alors par contre, en revanche, non, pour rentrer chez les gens, c'est plus facile aujourd'hui. Parce que y a quand même une habitude maintenant plus grande de voir des étrangers, voilà. Mais il y a encore beaucoup d'interdictions hein, en Chine, beaucoup.
Je voudrais mettre en regard Patrick Zachmann deux photographies ou une photographie et une série de photographies dans votre livre. La première est une photographie donc pleine page, hein, pleine double page plus exactement, de Chinois. Prise devant nous, c'est-à-dire que elle est en noir et blanc, parce que pendant très longtemps, jusqu'à 2001, vous avez photographié en noir et blanc la Chine. Ce sont des Chinois, hommes et femmes, qui sont vraiment juste devant vous. Ils vous regardent pour certains, ils vous sourient, certains ont l'air intrigués, se demandent ce que vous faites là. Et la deuxième est beaucoup plus récente, celle-ci date de quand ?
De 1982.
Bon, donc vraiment la première série de photographies que oui. vous avez réalisées en oui. Chine. Et la deuxième est beaucoup plus récente. C'est une série de photographies que vous avez réalisées de Mingong, ces paysans devenus ouvriers, venus dans les villes pour y chercher du travail. C'est une série de photographies beaucoup plus récente, qui date des années 2000. Et vous avez fait une galerie de portraits, mais toujours en extérieur. Cette photographie en noir et blanc est en extérieur. Et la série de portraits des Mingong, beaucoup plus récente, est en couleur cette fois, mais aussi en extérieur. Là, ça rejoint ce que vous nous disiez. En extérieur, il est tout à fait possible de prendre des oui. Chinois. Ils acceptent facilement de se prêter au jeu.
Oui, il faut quand même les convaincre. Il y a une distinction à faire entre les deux séries, puisque enfin les deux photos, puisque la photo que vous décriviez de 1982 donc représente une petite foule de Chinois qui effectivement viennent vers moi, me regardent et je l'ai appelé d'ailleurs le long nez. Parce qu'en fait, ils regardent le long nez. Hein. C'est comme ça que les Chinois, à l'époque, nous appelaient les Occidentaux, les étrangers, voilà. Et il faut savoir qu'à cette époque, en 82, c'était l'ère de Deng Xiaoping, donc le début de l'ouverture de la Chine, c'était encore quand même encore fermé, et les Chinois n'avaient jamais vu souvent d'Occidentaux. Donc là, en 1982, c'est la première fois que ces Pékinois, en vêtus du costume traditionnel de Mao, voient, découvrent un occidental. Et c'est pour ça aussi que la photo, ils sont très proches, parce qu'ils s'approchaient de moi. Ils s'approchaient de moi, ils sourient, ils sont très curieux. Les Chinois sont très curieux. C'est une des qualités que j'aime bien, d'ailleurs, de ce peuple en Chine populaire. Et y en a un, même, je me souviens, qui c'était l'été, qui est venu et qui m'a tiré un poil du bras, parce qu'ils sont pas habitués, quoi. Donc, voilà, une espèce de naïveté. L'autre série, en couleur, donc dans les années 2000... c'est une série de photos posées, donc où je fais poser des gens. Ce sont des portraits, donc c'est différent. Et là, ce sont des Mingong, donc que je fais poser devant des décors dans la rue, des peintures murales. En fait, ce sont des images virtuelles qui représentent de la verdure, enfin une société de rêve comme ça, des paysages de rêve dans un décor souvent de villes qui sont très urbanisées, très très modernes. Et là, par contre, il faut les convaincre. Il faut les convaincre. Alors, je suis toujours accompagné d'un guide en général, d'ailleurs, sont des amis chinois, photographes ou pas, et à qui j'explique comment faire convaincre les gens de poser pour moi et de me donner quelques informations sur eux, puisque pour chacun j'ai leur nom, leur fonction, de quel village ils viennent exactement. Généralement ils acceptaient volontiers. Certains avaient peur et refusaient, mais beaucoup acceptaient.
Patrick Zachmann, vous disiez que vous étiez l'un des rares encore à pouvoir entrer en Chine en 1982 pour photographier le pays, et que à cette époque ils appelaient les Occidentaux le long nez. Je voudrais vous proposer d'écouter le sinologue et anthropologue Patrice Fava, qui parle du premier photographe en Chine. C'est une archive INA de 1997. Écoutez-le.
Alors le premier des grands photographes, à mon sens, qui était en Chine, le premier qui soit connu des Occidentaux, c'est Félix Beato, qui arrive en Chine en 1860 Et là, on a quelques photos. Donc, il participe à cette époque. C'est le sac du Palais d'été, c'est la deuxième guerre de l'opium. Et ce premier photographe en Chine occidentale, finalement, fait un véritable reportage de guerre. Alors qu'à cette époque-là, la photographie, c'est quand même quelque chose qui est immobile. On cadre les choses, mais il ne faut pas que ça bouge à l'intérieur. On va voir d'autres exemples à travers notamment les photos du grand ancêtre, alors du pionnier, on pourrait dire, du photojournalisme, qui est John Thompson. Il va en Chine, non pas pour faire un reportage, mais pour étudier dans diverses provinces les mœurs, les coutumes et les grandes industries de cet ancien peuple. Donc c'est à la fois un photographe ethnographe, un reporter et quelqu'un qui va essayer de comprendre les Chinois de l'intérieur, de les approcher. Et c'est un peu un magicien, ce Thompson, parce qu'à l'époque, les Chinois considèrent que le photographe, c'est un voleur d'âme. C'est quelqu'un qui voit à travers les choses et surtout qui prend une part de l'énergie de l'être. Donc pour un Chinois de cette époque-là, être photographié, c'est risquer de mourir prématurément parce qu'on vous a enlevé une partie de votre âme.
Bon, cette époque-là, c'est la fin du 19e siècle, c'est la naissance de la photographie. Oui. Je ne suis pas sûre que ce soit une spécificité chinoise que de croire que photographier, c'est voler l'âme, Patrick Zachmann. Mais peut-être, cette archive me permet-elle de vous poser une question sur l'ambition que vous aviez, vous, en allant en Chine dès 1982. Est-ce que vous vouliez, vous aussi, comme John Thompson, essayer de comprendre les Chinois de l'intérieur ?
Oui, en l'entendant parler, je m'identifiais assez bien à cette folie un peu, cette ambition, de rentrer en Chine, dans leur intimité et dans leur mode de pensée, ce qui est en fait extrêmement difficile, voire impossible, pour un non-chinois.
Mais vous avez eu la tentation de vous siniser ?
Oui. Oui, bon, à un moment, j'ai essayé d'apprendre le chinois. Bon, je dois dire que j'ai vite laissé tomber parce que, vous savez, il y a beaucoup de tons en chinois, c'est très difficile.
C'est très compliqué et très long.
Et voilà, et quand j'essayais, il y a des Chinois, des amis qui étaient morts de rire en face parce qu'évidemment, j'avais mal dit un mot et au lieu de dire une jolie fleur, ça voulait dire prostituée ou des choses comme ça. Donc voilà. Mais j'ai essayé, je crois, d'aller au plus près de ce que je pouvais approcher, comprendre, parce que à travers ce travail, bon, sur la Chine, sur l'évolution de la Chine, etc., c'est aussi la volonté de parler de l'autre et d'essayer de comprendre l'autre. Donc c'est là le chinois. Parce que pour moi, aller vers les Chinois, c'était aller très loin, aller vers des signes que je comprenais pas, vers un mode de pensée que je ne comprenais pas, vers une culture multimillénaire, très riche, etc., qui m'attirait. Donc voilà, c'était l'étranger, mais ça aurait pu être un autre peuple. Et donc c'est un peu une métaphore aussi d'un travail sur l'autre.
Et ce qui est passionnant, Patrick Zachmann, et qu'on voit en photographie grâce à ce livre édité chez Xavier Barral notamment, c'est à quel point vous avez, sur 30 ans, assisté aux plus grandes métamorphoses de ce pays. Vous y avez fait une vingtaine de séjours en tout. On voit un certain nombre de temps forts, disons, dans ce livre. Bien sûr, Tiananmen en 1989, que vous avez couvert. On voit le tremblement de terre du Sichuan en 2008. On voit l'exposition universelle de Shanghai en 2010. Vous êtes retourné d'ailleurs à Hong Kong pour le 25e anniversaire de Tiananmen en 2014. Vous n'y étiez pas revenu depuis 17 ans. Donc, toutes ces transformations sont considérables. Mais peut-être que la plus grande transformation, c'est tout simplement celle du pays, de cette économie, de cette fermeture-ouverture des Chinois concomitants. Je voudrais vous proposer d'écouter Jia Zhangke, puisque tout est parti du cinéma pour vous en 1982. Vous étiez là-bas, vous avez photographié des tournages. On voit notamment la magnifique Gongli sur les tournages que vous avez faits, Patrick Zachmann. Écoutons donc Jia Zhangke, cinéaste invité de France Culture en 2010, cinéaste des transformations du pays, aussi bien paysanne qu'urbaine. Écoutez-le parler des transformations de son pays.
C'est vrai que depuis les années 80, au niveau des espaces, les transformations sont tellement importantes, au niveau surtout des villes, et toutes ces destructions, ces quartiers entiers qui sont détruits, ces villes, ces délocalisations auxquelles on assiste dans le cadre de Shanghai. C'est comme si on avait reconstruit une nouvelle ville sur l'ancienne. L'ancienne ville est recouverte de nouvelles quelque part, mais malgré tout, les traces du passé sont très fortes. Et d'être témoin de cela donne aussi de l'espoir pour, quant à la transmission du passé aux gens d'aujourd'hui et aux générations futures. Et quand on est confronté à une rue ou à un espace, on ressent à quel point... On perçoit tous les événements qui ont eu lieu dans cette rue, dans n'importe quel lieu de la ville. C'est vrai qu'à ce niveau-là, le cinéma est très important dans le sens où on peut laisser une empreinte plus palpable de ce qu'on aperçoit, nous, dans un lieu, dans un espace. Et on peut, comme ça, espérer faire, non seulement faire un travail de mémoire, mais en tout cas, comme pour ce qu'il en est à l'heure actuelle en Chine, de sauver ce travail de mémoire qui semblait en perdition, en tout cas, pas évident.
Patrick Zachmann, ce travail de mémoire doit vous parler. Vous qui dites souvent que vous êtes devenu photographe pour reconstituer une mémoire familiale et qui avez beaucoup photographié les différentes identités, les différentes migrations, la mémoire est au cœur de votre travail. C'est aussi faire mémoire que de photographier 30 ans de Chine ?
Ben oui, bien sûr. Même si... Au fur et à mesure, on n'est pas forcément conscient d'enregistrer ces transformations. C'est aussi nous-mêmes, pour nous-mêmes, c'est aussi un peu le recul du temps qui nous fait voir nos propres images devenir des documents. Et c'est ça qui est fantastique avec la photographie. C'est son lien justement à la mémoire. Et moi qui en manque, j'ai besoin de photographie. J'ai besoin de mes photographies. Alors je trouve ça intéressant que vous ayez choisi d'entendre et de nous faire écouter Jia Zhangke, parce que d'abord j'aime beaucoup son cinéma, j'aime beaucoup ses films, je l'ai rencontré d'ailleurs en Chine, et je me sens très proche de sa démarche, de sa façon de documenter et parler de la Chine contemporaine. Je trouve qu'il fait un travail très contemporain, à la fois effectivement sur les mutations de la Chine, sur la mémoire, mais aussi sur, et je trouve qu'il décrit très très bien, pour qui connaît la Chine d'aujourd'hui, les absurdités de ce monde très cruel et très très injuste socialement. Donc je me sens effectivement proche de cette démarche. Tout le travail que je fais en général tourne autour de cette question de la mémoire et de l'identité. Et ce qui m'a intéressé en allant comme ça, en allant et venant, parce que j'aime bien les allers-retours en général, 30 ans comme ça sur 30 ans en Chine, c'est vrai de documenter sur des mutations mais spectaculaires, visuellement spectaculaire et profonde. Spectaculaire quand d'ailleurs dans le livre So Long China, mais aussi dans l'exposition à la MEP, il y a une série de diptyques sur une ville moyenne qui s'appelle Wenzhou dans le Zhejiang, donc dans le sud de la Chine, et où je suis retourné 16 ans après. Donc j'y avais été en 91 avec une amie chinoise, Wendy, qui a eu la gentillesse de me faire découvrir cette ville dans l'intimité, vraiment dans son intimité, et ses amis, des familles que j'ai photographiées. Et 16 ans après, j'y reviens. J'y reviens d'abord seul, Et je recherche avec, j'ai sélectionné voilà une quinzaine de photographies des gens et de lieux, des paysages urbains de cette ville.
Et les transformations sont surprenantes. Hein. Oui, ça n'a plus rien à voir.
Tellement surprenante que la première fois que j'y étais, je suis parti d'une photo de nuit qui représente une ruelle de Wenzhou, donc la nuit du Nouvel An chinois avec des pétards, des feux d'artifice et avec une bicyclette, des carrioles qui passent. On se croirait dans un film, en fait, hein, dans un film d'ailleurs de Shanghai des années 30. Et puis, 16 ans après, j'essaye de retrouver cet endroit et je tombe sur une rue totalement moderne avec des tours, des voitures et tout. Et je me dis, je me suis trompé. Donc j'y retourne 6 mois après, accompagné de Wendy cette fois. Et on retombe sur la même rue. Et là, je me
c'était
dis,
bien
bah,
là.
C'est bien là.
C'était bien là.
Mais c'est irreconnaissable. Et voilà, donc ce sont des transformations spectaculaires, traumatisantes, je trouve, parce qu'elles ont été tellement rapides et tellement radicales que pour les Chinois, si vous voulez, pour les vieux qui n'ont plus ces repères, mais pour les jeunes aussi, la question qui m'a finalement hanté pendant toutes ces dernières années, surtout, c'est de me dire, mais comment font-ils? Comment font les Chinois pour survivre à ces transformations radicales, pour mentalement survivre à ces décors, à cet environnement totalement changé, mais aussi comment font-ils pour surmonter le traumatisme d'une période comme la Révolution culturelle où Mao Tse-tung a envoyé à la mort des millions et des millions de gens simplement parce qu'ils avaient un lien lointain avec un ancêtre qui était considéré comme un capitaliste. Des fois, c'est juste parce que c'était un petit entrepreneur ou un artisan. Ils ont été envoyés à la mort pour ça. Et puis, 10 ans après, Deng Xiaoping arrive et leur dit « Non, 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 ça, c'est du passé. Maintenant, au contraire, faites de l'argent. Vous pouvez avoir votre commerce, avoir votre usine et exploiter les gens. » Bon, c'est des changements tellement radicaux en si peu de temps que moi, ma question, c'est comment font-ils? Et j'admire les Chinois parce qu'ils ont une capacité, en fait, quand même d'adaptation extraordinaire. Mais faut pas croire non plus que ça laisse pas des blessures très profonde et très intérieure, invisible.
Et cette transformation extrêmement rapide, Patrick Zachmann, c'est aussi l'objet d'une des séries de votre reportage au long cours, de votre formidable document. On le voit dans le livre à travers des photos transgénérationnelles que vous avez prises entre 2012 et 2015 et où vous mettez en scène des jeunes de 20 ans à côté de leurs parents ou parfois de leurs grands-parents, dans leur intérieur familial, cette fois. C'est une série que vous avez appelée China Too Fast, et qui montre vraiment la rapidité des transformations. Vous parliez d'un traumatisme, je ne sais pas si on le voit, le traumatisme. Ce qu'on voit, c'est la différence fondamentale entre ces deux générations mises côte à côte. Et vous nous donnez là comme un condensé visuel de cette accélération historique extrêmement rapide. Est-ce que vous pouvez nous en décrire une, par exemple, de cette jeune fille au milieu d'un champ de maïs dans une pièce avec sa grand-mère, sans doute, ou sa mère, je ne sais pas.
Alors, en fait, c'est plutôt des jeunes que j'ai fait poser donc dans l'intérieur d'une maison, mais avec un membre des grands-parents, hein, en général. Donc là, c'est une jeune fille, toute jolie, avec les cheveux longs, noirs, et avec un t-shirt, un jean, des baskets, donc vraiment habillée à l'occidental. Et assez grande et qui pose à côté de sa grand-mère paysanne vêtue de voilà d'ailleurs du pantalon de Mao Tse-tung avec un fichu sur la tête de façon très simple et entourée de maïs. Et en fait cette jeune fille qui habite et travaille en ville est revenu pour la récolte du maïs pour aider sa grand-mère. Et là, on voit bien, donc dans cette image, le fossé culturel qui les sépare. Et en même temps, et c'est ce que j'aime bien dans cette série, il y a une immense tendresse entre à chaque fois le jeune et son grand-père ou sa grand-mère qu'on n'observe pas toujours avec les parents, hein. Il y a toujours une difficulté de communication, c'est aussi cette culture quand même du silence, du respect qu'imposent les Chinois aux enfants, qui fait que finalement ils partagent beaucoup plus de complicité et d'intimité avec leurs grands-parents. Souvent, d'ailleurs, ce sont les grands-mères qui éduquent et qui élèvent les enfants. Donc, cette série parle de ce que, comme vous dites, de l'accélération historique phénoménale, vertigineuse, qu'a connue la Chine. Ces 30 dernières années. Et en même temps, elle interroge un peu sur l'identité, la question de l'identité aujourd'hui de ce pays, des jeunes qui sont quand même tiraillés entre un modèle occidental fort, très présent, et un modèle chinois qui reste quand même communiste avec un régime très 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 fort et très dur. Il y a quand même une schizophrénie dans ce pays. Hein, on est quand même dans une économie capitaliste, sans bornes même, je dirais, tout en étant gouverné par un régime communiste qui d'ailleurs se referme et se tend ces dernières années.
Et on le voit, Patrick Zachmann, à travers d'autres figures que vous avez longtemps photographiées, dont on a déjà dit un mot tout à l'heure, c'est ces portraits de Mingong que vous avez réalisés dans les années 2000. Mais on les voit travailler, ces Mingong, c'est donc ces paysans pauvres qui ont fui la misère de la campagne pour aller peupler les grandes villes, mais qui se retrouvent extrêmement pauvres dans les grandes villes à travailler. C'est des paysans devenus ouvriers. Ils sont quand même 200 millions de personnes. Hein, et on n'est pas dans les chiffres français, là. Hein. Et vous montrez bien... Autant vous montrer l'envers des façades, de ces décors de Pékin, par exemple, en grande transformation. Il y a des chantiers partout. On voit la destruction des quartiers traditionnels qui sont les Hougtong. Mais vous montrez tous ces faux-semblants, ces chantiers recouverts de palissades publicitaires avec des images virtuelles des complexes à venir. Et vous montrez l'envers de ces façades décors. Et l'envers de ces façades décors, c'est ces paysans pauvres, comme sur cette image-là, l'image d'un dortoir. Alors, je vous laisse la décrire, mais ils sont très nombreux dans ce dortoir.
Oui, ils sont très nombreux. Alors ça, justement, vous parliez de la facilité ou la difficulté de rentrer à l'intérieur et de photographier les Chinois. Ça, c'est une série, par exemple, qui m'a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps et beaucoup de difficultés parce que il faut rentrer là par exemple dans les dortoirs, il faut ruser pour déjouer la vigilance des gardiens de sécurité parce que c'est très sécurisé les chantiers, puis ensuite convaincre les Mingong qui n'ont pas l'habitude de voir un occidental là-dedans donc c'est très difficile, mais j'ai réussi à photographier cette intimité. Dans cette photo assez incroyable, dans un dortoir, il y a quatre Chinois, quatre Mingong qui jouent aux cartes, qui tapent les cartes,
et un autre qui
essaye de dormir, un autre qui se lave les pieds dans une bassine, et un autre qui regarde la scène en rigolant. Donc c'est un peu l'image de l'intimité de cette Chine qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir.
se quitte Patrick Zachman sur une chanson qui vous correspond bien puisqu'elle s'intitule Miss Chang, du nom de Grace Chang qui chantait en Chine dans les années 1960, interprétée, retravaillée par le groupe des Chinese Men qui est un groupe d'aujourd'hui, donc aller-retour dans le temps, c'est vraiment ce que vous avez fait, c'est ce que vous faites dans votre travail. D'ailleurs c'est la fin d'une époque, l'exposition et le livre clos de ferme cette époque chinoise pour vous.
Pour moi oui, enfin c'est voilà, So Long China, c'est tant d'années et aussi en même temps voilà, un de ces jours, parce que je sais que j'y reviendrai, mais pour moi c'est sûr que c'est une page qui se tourne.
Merci beaucoup Patrick Zachman. Selon China, c'est un très très beau livre édité chez Xavier Barral. C'est une exposition à la Maison Européenne de la Photographie à Paris jusqu'au 5 juin qui se prolonge également sous la forme d'un extérieur au musée du Quai Branly à Paris. Merci beaucoup.
Merci.